Extra classe.
Je m'appelle Jean-Charles Pétier, je suis professeur de philosophie actuellement en poste à l'INSPE de Créteil, en charge de la formation des enseignants essentiellement du premier degré.
Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école.
C'est quoi avoir un ami ? Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce qui est beau ? Qu'est-ce qui est normal ou pas normal ? Qu'est-ce que ça veut dire grandir ? Qu'est-ce qu'on fait à l'école ? Pourquoi il y a de l'école ? Pourquoi on est là ? Voilà quelques-unes des questions que se posent spontanément les enfants en milieu scolaire ou à la maison. Ce qui m'a conduit à me centrer sur les plus jeunes et non pas les lycéens, c'est qu'au départ j'étais enseignant en SECPA et que j'ai fait mes études de philosophie pendant que j'étais enseignant en SECPA. Et que pendant ce temps-là, moi-même, j'étais en train d'étudier la philosophie, les deux perspectives se sont croisées, et je me suis dit au bout d'un moment, mais finalement, pourquoi eux ne font-ils pas de la philosophie ? J'ai commencé avec des adolescents, puis des enfants de l'école élémentaire, et j'en suis arrivé aux enfants de l'école maternelle. Donc moi, je commence plutôt avec des grandes sections de maternelle. Ceci dit, certains essayent plus tôt encore. Personnellement, je pense qu'en dessous de la grande section de maternelle, j'ai des difficultés quand même. Une fois où je discutais avec les élèves, et la maîtresse m'avait demandé d'échanger avec eux sur « faut-il apprendre ?». Donc le premier élève me dit « oui, il faut apprendre pour faire plaisir à la maîtresse ». Le deuxième dit « il faut apprendre pour avoir de bonnes notes à l'école ». Le troisième dit « il faut apprendre pour avoir un bon métier quand on sera plus grand ». Et comme ça défilent des tas de raisons de « il faut apprendre ». Et puis j'arrive à une petite fille qui me dit « mais moi je ne sais pas s'il faut apprendre ». Et ça en philo pour enfants, quand un enfant dit « je ne sais pas », notre attention est attirée. Et je lui dis « mais pourquoi tu ne sais pas ?» Elle me dit, moi je me pose une question quand même, faut-il apprendre le mal ? Et je lui dis, mais toi qu'est-ce que tu en penses ? Elle me dit, moi je pense qu'il ne faut pas apprendre le mal, sinon on va faire le mal et il ne faut pas faire le mal. Et puis j'arrive à un loulou, et je lui dis, et toi ? Il me dit, moi je pense qu'il faut apprendre et qu'il faut apprendre le mal. Je dis, ah bon, est-ce que tu peux m'expliquer ? Il me dit, parce que lorsqu'on a appris le mal, c'est là où on peut choisir de faire le bien. Un enfant de CE1, hein, c'est très petit, qui est très intéressant de se dire, tiens, finalement, voilà, dans ce type d'échange, d'un seul coup, comment la pensée peut-elle progresser ? C'est voilà, un exemple qui m'a frappé. Tout le jeu de ce type d'activité, c'est d'abord de les mettre en confiance, de montrer que ce qu'ils disent nous intéresse, c'est-à-dire de les constituer, comme on dit en philosophie pour enfants, comme des interlocuteurs valables, c'est-à-dire des interlocuteurs par rapport auxquels on fait attention aux propos, que l'on va relancer pour leur montrer qu'on est très attentionné, qu'on cherche à bien comprendre ce qu'ils veulent dire. Et c'est ce type d'écoute qui va faire que progressivement ils vont s'installer dans l'échange, même si ce progressivement peut parfois mettre plusieurs séances, hein, c'est pas la magie non plus. A priori, beaucoup de collègues pensent que ça, finalement, une des façons de faire, ça serait de partir d'une question qu'a eu un enfant dans la classe ou d'une situation de classe et puis à partir de là, réfléchir. Sauf que la difficulté, c'est que la situation de classe, elle est très proche d'eux. Et comme elle est très proche d'eux, elle est peut-être trop proche d'eux. Et du coup, ils peuvent avoir du mal à séparer les affects de la raison, finalement, quand ils parlent. Donc moi, j'ai plutôt tendance, soit à partir d'une image, que l'on va d'abord décrire, puis ensuite à partir de laquelle on va réfléchir. La littérature pour enfants présente des milliers de supports qui sont extrêmement intéressants et qui vont permettre aussi à l'enfant finalement de parler à travers le héros, donc de prendre de la distance par rapport à ce qu'il vit. Des fois, je suis parti d'un objet, une réflexion sur le temps, par exemple, que j'ai conduite à partir d'une pendule. Et on a réfléchi à ce à quoi ça pouvait bien servir, vu qu'ils ne savent pas lire l'heure, les petits de maternelle. Un élève si jeune qui pratique les activités à visée philosophique, finalement, en tire un certain nombre de bénéfices. D'abord, il est placé dans une situation d'échange. Il va devoir employer des mots ou il va devoir découvrir des mots qu'il ne connaît pas pour décrire certaines situations ou pour se positionner. Et à entendre que les autres peuvent penser différemment d'eux. Et ce qui est très important dans l'école de la République, c'est de découvrir qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut échanger avec d'autres qui ont ces opinions différentes. Et que finalement, ce qui est intéressant aussi dans les autres, c'est précisément qu'ils ont des opinions différentes. Et ça, c'est peut-être fondamental pour l'apprentissage de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le lieu où on se tire dessus à la Kalachnikov quand quelqu'un ne pense pas comme nous. Va se dégager de là un bénéfice qui sera en termes d'estime de soi. Il se rend compte qu'il est quelqu'un d'important, qu'il a des choses à dire, qu'il est écouté, et pour autant, en même temps, tout ce qu'il dit n'est pas forcément merveilleux. C'est-à-dire qu'il va être interrogé, et donc il va aussi progressivement développer sa capacité critique, hein, son sens critique, ou son sens autocritique, en grandissant. Il va changer aussi son rapport à l'école, c'est-à-dire qu'il va peut-être mieux comprendre les situations dans lesquelles il se trouve, ce que l'on fait à l'école, et il faut savoir, ça c'est extrêmement important, parce que ça fait partie des choses qui différencient beaucoup les enfants selon leur milieu social d'origine. Ce que je disais précédemment sur l'emploi de la langue est aussi important dans cette différenciation sociale, où selon le milieu familial d'origine de l'enfant, la langue n'est pas employée de la même façon. Et là, finalement, elle acquiert ce statut de central qu'elle a à l'école et qui est nécessaire pour la réussite scolaire. Pour moi, c'est un sujet d'émerveillement que de voir comme l'être humain jeune est intelligent, comme il est capable d'examiner les choses pour peu qu'on ait des exigences avec lui et que et donc on ne le laisse pas dire n'importe quoi et qu'en même temps on s'intéresse à ce qu'il dit. Donc ils m'apprennent beaucoup de choses parce qu'ils m'aident aussi à avoir un regard que parfois je n'avais pas. Moi j'ai construit des représentations d'adultes sur un certain nombre de problèmes, pensant un certain nombre de choses acquises, et des fois ils m'aident à les réinterroger. Des fois ils m'apprennent, franchement ils m'apprennent des choses. Et je leur dis, je n'avais jamais pensé à ça, et je suis ébahi. Et ils adorent se rendre compte que je n'avais pas du tout pensé à ce qu'ils sont en train d'énoncer. Et donc, pour moi, c'est une source de richesse de me dire, j'espère que ces enfants, en grandissant, vont garder cette vivacité intellectuelle qui est pour moi une source de plaisir intellectuel, vraiment.
Les Énergies scolaires est un podcast extra classe par Réseau Canopée. Auteur-réalisation, Jean-Paul Philitte. Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missire. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclasse.reseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extra Classe, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production Réseau Canopée 2021.
Extra Classe.